Deutsche Welle Magazine Santé.
Les perturbateurs endocriniens et leur effet sur la santé des grands comme des tout petits. On en parle cette semaine dans ce magazine. Nous irons au Bénin où une frange importante de la population gagne sa vie grâce à l'agriculture. Une agriculture qui se base souvent sur l'usage des pesticides, ce qui n'est pas sans danger. Carole Assillon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Glyphosate, atrazine, flubendiamide, spirotétramate, des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Il s'agit de pesticides utilisés notamment dans le secteur agricole pour combattre l'œuvre destructrice des insectes nuisibles et accroître ainsi la production. Dans des pays comme le Bénin, les pesticides sont pour les maraîchers, par exemple, la seule alternative pour protéger leur production et augmenter les rendements. Mais ces produits chimiques, souvent toxiques, constituent une menace pour la santé, non seulement des producteurs, mais également des consommateurs. Et de plus en plus de maraîchers semblent en avoir conscience. Les explications de notre correspondant à Cotonou, Rodrigue Guézodjé.
Je suis en train de traiter mes cultures contre les chenilles et contre les mauvaises attaques.
Cet exercice, la grande majorité des maraîchers béninois le font au quotidien avec différentes sortes de produits phytosanitaires pour la protection de leur culture. Ambroise Soyenou est dans ce secteur depuis une vingtaine d'années. Sur son site situé à proximité de l'aéroport de Cotonou, il n'utilise pas les mêmes pesticides pour toutes les spéculations.
Chaque produit est indiqué parce que si nous prenons par exemple le landa ne peut pas tuer les chenilles qui sont dans les choux. C'est pour cela que on utilise le landa pour les cultures légères. Par exemple, l'amarante et la laitue, et les véronias, et les gandes morelles et consorts. Si nous prenons par exemple Emacote qui est sur le marché, ça a une dose très 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 forte et qui tue les chenilles automatiquement.
L'objectif de l'utilisation de ces produits est en effet de freiner les ravages des nuisibles et d'accroître les rendements pour une souveraineté alimentaire. Ils sont donc indispensables, voire incontournables dans cette activité, à en croire Mathieu Saoui de la Fédération des organisations maraîchères du Bénin.
Nous ne pouvons quand même pas produire sans avoir recours à ces produits-là. Le traitement se fait selon une séquence d'une fois par semaine. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut respecter le temps de rémanence de chaque produit. Comme je vous le disais, il y a de différentes doses de toxicité de produits. Il y a des produits qui sont à haute dose de toxicité. Et ces produits-là, si vous les appliquez, il faut attendre peut-être 2 mois à 3 mois avant de consommer.
À ce niveau se situe justement le problème. De par leur toxicité multiforme, ces substances impactent dangereusement sur la santé des acteurs. C'est du fait de leur mauvaise manipulation et leur emploi inadéquat, selon le médecin de travail Benjamin Fayomi.
Le problème, c'est la mauvaise utilisation. Parce qu'il y a mauvaise connaissance. Mauvaise utilisation, ça veut dire que le dosage prévu par le fabricant n'est pas le dosage utilisé pour fertiliser. Conséquence, il arrive que l'on observe des cas d'intoxication suite à certaines consommations de produits. Et on n'est pas là dans la grande utilisation, mais on est dans l'utilisation courante. Et c'est là la question d'information et surtout de formation.
Outre les intoxications, l'exposition aux pesticides favorise le développement de divers cancers, endommage le système nerveux et entraîne d'autres pathologies en lien avec les troubles de la reproduction et les malformations congénitales. Autant de conséquences qui ne sont pourtant pas inconnues des maraîchers.
En principe, si on fait ce genre de traitement, il faut un certain nombre de durées et d'arrosage sur cette culture pour que le produit soit lessivé avant de consommer. C'est ça que beaucoup de gens ne le font pas. Que de l'argent, les gens ne suivent pas les consignes données sur ce genre de produit et ils le mettent sur le marché et les gens consomment. Puis à la longue, ils attrapent des maladies.
En vue de préserver la santé des populations contre les poisons que constituent ces pesticides, les organisations des maraîchers envisagent de sensibiliser les acteurs sur les solutions biologiques.
La technologie a évolué. On n'est plus obligé d'avoir recours aux produits chimiques. Quand vous prenez par exemple l'huile de Nîmes, c'est une insecticide puissante, mais qui ne fait de mal à personne.
Qui n'est pas toxique.
Du tout pas, ce n'est pas du tout toxique. Il y a d'autres procédés, il y a des concentrés de piment que nous faisons pour chasser des criquets à la place de lambda ou autre chose. Il y a beaucoup d'autres produits homologués dans le maraîchage.
Rodriguez Ogier à Cotonou pour la Deutsche Welle.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Santé sur la Deutsche Welle. Et nous continuons de parler des pesticides et leurs effets sur la santé. Cette fois des tout petits, les perturbateurs endocriniens agissent en effet dès la conception. C'est ce que nous explique Charles Sultan. Il est professeur en endocrinologie pédiatrique au CHU de Montpellier et spécialiste des effets des perturbateurs endocriniens sur le corps humain.
Les pesticides altèrent l'équilibre endocrinien puisqu'on les considère comme des perturbateurs endocriniens, c'est une chose, et qui s'est confortée depuis quelque temps par leur action sur la croissance cellulaire, la différenciation cellulaire, leur effet oncogène, donc ils sont impliqués dans le développement du cancer. Troisièmement, leur effet immunologie. Quatrièmement, leur effet mutagène. Ils sont capables de modifier l'expression de gènes, ce qui est dramatique en médecine et en santé publique. Leur effet est capable d'être transmis sur plusieurs générations.
Les effets, vous venez de le dire, sont dévastateurs. Et vous parlez du risque de transmission de génération en génération. Concrètement, comment se manifeste-t-il, ce risque ?
À partir d'un modèle clinique que nous connaissons, qui est celui du distilbène, cet estrogène qui avait été prescrit à des femmes enceintes, qui est un xénoestrogène et qui est donc considéré par la communauté scientifique et médicale comme un modèle de l'étude des perturbateurs endocriniens, eh bien on sait que l'impact du distilbène s'exprime non seulement sur les fœtus qui ont été contaminés, mais sur les enfants de ces fœtus. Il y a donc un effet transgénérationnel par des mécanismes épigénétiques de l'effet des perturbateurs endocriniens. Ce qui a été confirmé par un deuxième perturbateur endocrinien bien connu, qui est la dioxine, à travers le modèle clinique de l'agent orange. L'agent orange, c'est ce pesticide qui a été répandu sur le Vietnam par les Américains et dont on voit les effets perdurer jusqu'à la troisième génération.
Et du coup, du coup, on peut dire que les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables quant aux effets de ces pesticides.
Absolument. C'est la cible privilégiée, car contrairement à ce que nous pensions, le placenta n'est pas un filtre, et quelquefois même il va concentrer la teneur en pesticides pour la transmettre au fœtus. On sait d'ailleurs que dans le sang du cordon fœtal, on est capable d'isoler plus de 250 perturbateurs endocriniens.
Dans l'une de vos études, vous revenez également sur la problématique de la puberté précoce.
Nous avions, il y a près de 15 ans, pointé l'augmentation des pubertés précoces chez la fille, car ces produits chimiques sont dotés, je l'ai dit, d'une action estrogène-like, estrogénomimétique, et depuis 10-15 ans, toutes les études internationales, américaines, européennes, ne cessent de confirmer cette entrée en puberté plus précoce chez la fille, qui pose là aussi de très nombreux problèmes médicaux, psychologiques, sociaux. À travers les études que nous avions conduites sur les malformations génitales, sur les pubertés précoces, nous apportons des éléments qui tendent à démontrer que les perturbateurs endocriniens sont des acteurs potentiels des troubles de l'identité sexuelle. On est là, je le répète, en présence d'une situation qui mériterait peut-être plus d'attention que les perturbateurs endocriniens. En ciblant le testicule fœtal, ils vont perturber les mécanismes de la spermatogénèse à l'âge adulte. Chez l'homme, la spermatogénèse est immédiate et elle se renouvelle à chaque éjaculation, alors que pour la petite fille, ces cellules matures, ces ovocytes, sont fixés pendant la vie fœtale. Donc tout produit chimique, perturbateur endocrinien ou autre produit chimique qui altère l'ovaire fœtal va retentir et générer une ménopause précoce, une atteinte ovarienne plus ou moins grave dont, dans certains cas, conduira à une infertilité féminine. Et c'est là toute la problématique des perturbateurs endocriniens. ils sont à l'origine d'un nouveau concept en médecine qui est celui de l'origine fœtale d'une pathologie adulte. Avec l'exemple du distilbène, il a été rapporté le développement de cancers du vagin chez des petites filles entre 14 et 15 ans dont les mamans avaient été traitées par le distilbène. Il en est de même pour l'obésité et l'épidémie d'obésité trouve en partie son explication sur une contamination par de nombreux pesticides.
Le professeur Charles Sutton appelle donc à une plus grande vigilance et implication des décideurs, notamment politiques. Selon lui, nous sommes à l'aube d'un véritable scandale sanitaire et économique. Et si aucune mesure n'est prise, il sera difficile pour les autorités sanitaires d'assumer tous les coûts des futurs traitements qui risquent d'être de plus en plus nombreux. D'où l'importance donc de la protection des femmes enceintes notamment. Le magazine Santé, c'est déjà la fin. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet santé.
Yeah, yo! Yeah.